Bonjour à tous et bonjour à toutes. Vous êtes bien sur Radio Cause Commune et dans l'émission hebdomadaire Onde de choc de PEPS. Elle sera animée aujourd'hui par Didier Racinet, donc rédacteur en chef de la revue Alters Media, c'est moi-même. Et nous recevons aujourd'hui donc Ludivine Bantigny, qui est historienne et qui produit évidemment plusieurs ouvrages, dont celui dont on va parler aujourd'hui, qui s'appelle « La bourse ou la vie, le Front populaire, histoire d'aujourd'hui ».
Histoire pour aujourd'hui.
Histoire pour aujourd'hui, pardon. Nous avons donc choisi d'intituler l'émission « Les leçons du Front populaire pour le monde d'aujourd'hui ». Parce que, justement, l'objet du travail de Ludivine Bantigny était de chercher à résoudre la question « Que peut un gouvernement de gauche, je vous cite, dans le cadre d'institutions et d'un système qu'il souhaite préserver en espérant l'améliorer ?» Les mots sont choisis, je pense. Et que dit cette stratégie aujourd'hui ? Vous continuez d'ailleurs en précisant quelle est la place exactement de la souveraineté populaire quand les structures économiques et politiques, c'est moi qui rajoute politique, restent inchangées. Ben voilà, est-ce que vous pouvez peut-être commenter ces intentions, c'est l'objet de cet ouvrage?
Merci, bonjour Didier, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour votre invitation, je suis ravie de mener cette discussion avec vous. Oui, alors j'ai voulu travailler sur le Front populaire et ça m'a pris des années, des années d'archives, de sources, d'exploration, donc dans ces sources extrêmement abondantes et foisonnantes, parce que je pense que cette période mérite qu'on la regarde très attentivement, à la fois avec enthousiasme et aussi avec lucidité, parce que souvent on retient du Front populaire évidemment les grandes grèves avec occupation de lieux de travail, et c'est en effet gigantesque, c'est un mouvement absolument exceptionnel dans l'histoire du mouvement ouvrier, des mouvements sociaux en général. On en retient bien sûr aussi les conquêtes qui ont été arrachées grâce à cette grève, les 40 heures, donc la réduction importante du temps de travail, les congés payés, les conventions collectives, et puis cette aspiration à la joie, à la vie, au bien-être. Donc on retient de ce moment vraiment sa dimension très heureuse, et en général on voit assez peu finalement dans le détail ce que cette période a représenté en termes d'union de la gauche, en termes d'obstacles, de difficultés, parfois de tensions et de contradictions, parce qu'il y a aussi une dimension tragique dans cette période des années 30 en général et du Front populaire en particulier. Donc je voulais y voir de plus près parce qu'il me semble que cette période nous raconte énormément d'enjeux, de questions, de projets politiques et sociaux, de programmes et de dimensions très stratégiques qui nous parlent encore aujourd'hui.
Exactement, exactement. C'est non seulement un anniversaire, 90 ans très bientôt, mais ce sont vraiment des questions presque d'aujourd'hui. Et alors justement, pour les poser, pouvez-vous nous raconter peut-être à grands traits, au moins d'abord, la période du gouvernement Blum, en fait, de 34 à 37. On abordera la deuxième période, 37-38, un petit peu après.
Oui, alors le gouvernement Blum ne se met en place qu'en juin 1936, mais on peut déjà revenir dans une première étape sur la manière dont l'alliance s'est constituée. Et c'est une alliance qui est très étonnante, contrairement à ce qu'on peut imaginer aujourd'hui, parce que ça nous paraît un petit peu évident. En réalité, il y a quand même trois gauches, alors en particulier deux blocs de gauche, d'un côté communistes et socialistes, ensemble, qui sont des organisations qui se revendiquent à l'époque du marxisme, de l'anticapitalisme, de la lutte de classe, qui se revendiquent encore de la révolution, d'une perspective révolutionnaire, et qui misent beaucoup sur justement l'histoire du mouvement ouvrier, sur ses luttes, ses grèves, ses conquêtes, et qui s'appuient sur le mouvement syndical aussi, mouvement syndical qui à l'époque assez divisé, puisqu'il y a d'un côté une CGT, et de l'autre l'autre côté, une CGT unitaire, plutôt proche des communistes. Et puis, d'un autre côté, il y a le Parti radical. Alors, le Parti radical, qui est un pivot de la Troisième République, hein, qui est plutôt de gauche centriste, de gauche modérée, qui ne veut pas du tout remettre en cause la loi du marché, le système économique tel qu'il existe, qui représente plutôt les petites, la petite bourgeoisie, petite et moyenne bourgeoisie, les classes moyennes, et qui est très attaché à l'ordre, bon, qui se revendique des Lumières, de la Révolution française, de la République, de la laïcité. Mais déjà, ce sont deux visions du monde, deux projets qui sont très différents. Par ailleurs, dans les années 34-35, il y a encore beaucoup d'hostilité réciproque. Hein, c'est au Parti communiste la ligne qui prévaut, c'est la ligne dite classe contre classe. Donc, pendant plusieurs années avant la constitution du Front populaire, les communistes, les dirigeants communistes traitaient les dirigeants socialistes de socio-traîtres ou de socio-fascistes. Donc c'était une ligne très très dure hein, qu'on peut considérer aujourd'hui comme sectaire. Du coup, il y a beaucoup d'hostilité réciproque. Et donc ce qui va se passer, c'est que d'une part, on ne peut pas comprendre le Front populaire si on n'a pas en tête l'importance de la crise économique extrêmement profonde qui ravage le monde en général et la France en particulier depuis 1929, la fameuse crise de 1929, que les socialistes et les communistes considèrent vraiment comme une crise du capitalisme, des contradictions du capital, avec d'un côté une crise de surproduction et de l'autre côté de la misère. Et puis, il y a bien sûr la fascisation de l'Europe, hein, dans la mesure où on a Mussolini depuis 1922, Hitler qui vient d'arriver au pouvoir en janvier 1933, les premiers camps de concentration qui sont ouverts avec comme cible des militants communistes, socialistes, syndicalistes, anarchistes et libertaires. Donc, le Front populaire va se former dans une perspective antifasciste et grâce notamment à la mobilisation à la base, parce qu'il y a énormément de comités, de collectifs, de manifestations, de rassemblements qui interpellent les organisations politiques malgré leurs divergences pour former une unité. Donc cette unité, donc Front Populaire, va permettre la victoire électorale d'avril et mai 1936.
Peut-être un incident, l'incident malgré tout de 34 avec les manifestations des croix de feu devant l'Assemblée. Est-ce que ce n'est pas l'étincelle qui finalement...
Oui. Alors, bien sûr, là, j'essayais de résumer la période, puisque Didier, vous m'avez proposé de faire un grand panorama 34-37. Mais on peut s'arrêter, en effet, sur l'année 1934, parce qu'elle est fondamentale. Le 6 février 1934, il y a une émeute organisée par les ligues d'extrême droite, dont certaines sont clairement fascistes, voire nazies, très proches des nazis. D'autres sont monarchistes et très clairement anti-républicaines. Hein. C'est le cas de l'Action française, par exemple, dirigée par Charles Maurras, Action française fondée pendant l'affaire Dreyfus dans une perspective anti-dreyfusarde, hein, qui est une ligue extrêmement raciste, racialiste, antisémite et donc anti-républicaine. Et puis il y a les Croix de Feu, qui est une ligue de droite autoritaire, fondée essentiellement sur le souvenir de la Première Guerre mondiale, des anciens combattants, donc dirigée par le colonel de la Roque. Et là, il y a 15 morts ce jour-là parmi ces manifestants. Mais la gauche mesure que la République est en danger, puisqu'il y a eu des tentatives pour prendre d'assaut la Chambre des députés. Et du coup, c'est ce qui explique justement l'importance de cette mobilisation antifasciste. Une grande manifestation qui a lieu partout dans le pays, d'ailleurs, hein, 1 million de personnes le 12 février 1934. Et là, c'est ce que je disais à propos de cette base populaire qui, le 12 février 1934, va, par exemple, à Paris, être d'abord organisé dans deux cortèges, principalement celui des socialistes et celui des communistes, mais qui fusionne finalement au cri de « unité, unité ». Et ce 12 février 1934 va être suivi d'une longue période d'hésitation, de tâtonnement, de rebondissement, pour finalement former le Rassemblement populaire devenu Front populaire. Mais c'est vraiment surtout grâce à cette puissante auto-organisation à la base.
Exactement. C'est vraiment un élément majeur hein, dans cet événement. Quelles étaient avant, je dirais, les positions stratégiques de la SFIO, d'une part, et du PCF, d'autre part? Alors, vous avez évoqué classe contre classe, hein, la position du Parti communiste, mais la SFIO, dans sa stratégie, comment la décririez-vous?
Alors déjà, il faut se dire que même s'il y a eu cette rupture au congrès de Tours en 1920 qui a donné deux organisations, la SFIO et la SFIC, donc bon, la SFIO qui existait, section française de l'Internationale ouvrière, et une scission, donc la section française de l'Internationale communiste, donc ce qui va devenir le Parti communiste, qui d'ailleurs ne s'intitule absolument pas PCF à cette époque-là, hein, qui ne veut pas entendre parler d'être français particulièrement, puisqu'ils se disent internationalistes, donc les travailleurs n'ont pas de patrie. C'est une époque où le PC rejette, par exemple, la Marseillaise, le drapeau tricolore, hein, tout ça ne fait pas du tout partie de sa culture. La scission, elle se fait surtout sur la question de adhérer ou pas à la troisième internationale et du coup à un monde qui est surtout coordonné depuis Moscou, hein, depuis la révolution russe de 1917 et c'est surtout celle d'octobre. Mais il ne faut pas s'imaginer que malgré ce congrès de Tours et cette scission, les socialistes de l'époque ne seraient plus révolutionnaires. Par exemple, Léon Blum, lors de ses interventions au congrès de Tours en 1920, décembre 1920, il se dit révolutionnaire et il dit d'ailleurs « je ne conçois pas de socialisme révisionniste ou réformiste. Nous sommes des révolutionnaires, nous sommes anticapitalistes, nous voulons abattre le capitalisme. » Lui, son désaccord, c'est par rapport au parti bolchevique qu'il estime trop autoritaire et par rapport à justement ce Comintern qu'il juge trop coordonné et contrôlé par Moscou. C'est ça le désaccord premier. Et donc les socialistes, pour parler plus profondément de stratégie, hein, par exemple, sont très favorables à l'idée de socialisation des moyens de production. Blum, y compris au début des années 30, écrit de nombreux articles, toute une série d'articles sur les socialisations. Donc cette idée vraiment qu'il faut transformer les industries clés en biens communs qui seraient, y compris, contrôlés par une forme d'auto-organisation ouvrière à la base. Et puis, il distingue ces socialisations des nationalisations. Mais il est aussi favorable aux nationalisations. Il estime que voilà, l'État, à un moment, doit prendre la main sur une partie de l'économie, des secteurs industriels et financiers, des banques aussi, des assurances. Et pour terminer peut-être sur cette réponse, alors il faudrait vraiment pouvoir développer et nuancer, mais disons que les dirigeants socialistes, alors qui sont eux-mêmes divers, hein, il y a une hétérogénéité au sein du Parti socialiste, hein, puisque à sa gauche il y a une aile qu'on appelle la gauche révolutionnaire, hein, notamment avec Marceau Pivert, Marcel Pommerat, Marcel Leu, Pommerat, Daniel Guérin. Mais en tout cas, Léon Blum, par exemple, il distingue, c'est une distinction très connue qu'il a théorisée depuis plusieurs années, hein, il distingue la conquête révolutionnaire du pouvoir, hein, ce qu'il appelle la prise du pouvoir, et puis d'un autre côté l'exercice du pouvoir, c'est-à-dire l'arrivée au pouvoir par le biais d'élections. Et ça va être fondamental, hein. C'est pour ça que le livre d'ailleurs commence par un brouillon de Léon Blum où il parle de cette distinction, donc retrouvée dans ses archives, parce que en fait, du coup, la SFIO dans sa direction va dire, voilà, si on remporte les élections législatives d'avril-mai 1936, ça ne sera pas une conquête du pouvoir. Donc ça sera un exercice légal du pouvoir, parce qu'on est arrivé au pouvoir par les élections, en l'occurrence 57% des voix. Et du coup, c'est pour ça que la question que vous posiez tout à l'heure, elle me semble majeure, c'est-à-dire, finalement, ils ne veulent pas toucher aux institutions de la Troisième République et ils ne veulent pas non plus toucher fondamentalement au système capitaliste, puisque Blum estime que c'est pas encore la révolution. Donc, c'est comment, selon les termes de Blum, apporter un peu de justice et de bien-être, mais dans un cadre somme toute inchangé.
Mais alors, comment expliquer cette contradiction quand même, pour du point de vue de la SFIO, entre des positions quand même révolutionnaires, je dirais au congrès de Tours et d'ailleurs après, et puis ce qu'ils font pratiquement une fois qu'ils sont arrivés au pouvoir en fait.
Alors, en fait, bon, déjà, ce qu'il faut rappeler, c'est que Blum est à la fois un socialiste sincère, et il est sincèrement opposé de tout son être au capitalisme, mais c'est en même temps un juriste, quelqu'un qui est somme toute légaliste. Il a été membre du Conseil d'État, et à ce titre, il a fréquenté aussi des membres du Grand Patronat. Lui-même, d'ailleurs, mène plutôt une vie bourgeoise, hein. Il vit sur l'île Saint-Louis, bon, c'est pas l'île Saint-Louis d'aujourd'hui, mais c'est quand même, voilà, il est quand même plutôt dans son dans sa vie quotidienne plutôt voilà,
bourgeoise,
plutôt une vie plutôt confortable et bourgeoise, mais très fidèle à la classe ouvrière, au mouvement ouvrier. Bon, ensuite, ce qui s'est passé, et c'est pas la seule responsabilité des dirigeants socialistes, c'est que le programme du Front populaire, contrairement à ce qu'on imagine en général, est un programme somme toute assez modéré et je dirais même assez minimal. C'est même pas une question d'opposition entre réforme et révolution, c'est qu'il n'y a pas énormément de mesures de réforme dans le programme du Front populaire. Et ça, la responsabilité est quand même partagée. Le Parti communiste, par exemple, a beaucoup insisté pour qu'il n'y ait pas de nationalisation dans le programme du Front populaire. Alors, pourquoi ? Parce que la ligne stratégique des communistes avait radicalement changé à partir de 1935. Pourquoi ? Parce que Staline, la direction du Comintern, Dimitrov, hein, Georges Dimitrov qui dirige à ce moment-là le Comintern, l'international, la troisième internationale, l'international communiste, estime qu'il faut modifier en effet cette ligne parce que le danger principal, c'est le fascisme et que le fascisme, le nazisme évidemment en Allemagne, met en péril l'existence même de l'Union soviétique. Et donc il faut désallier. Y compris, il y a un pacte entre la France de 1935 avant le Front populaire. Hein. C'est Pierre Laval qui est à l'époque au pouvoir. Et Pierre Laval, c'est un homme de droite, hein, dur, hein, qu'on retrouvera plus tard premier ministre de collaborationniste et bien sûr, et premier ministre de Pétain. Donc, il y a un pacte Laval-Staline qui est un pacte notamment de défense mutuelle sur le plan militaire. Et donc, Staline impose cette vision stratégique qui est que, voilà, il faut étendre l'unité de la manière la plus large possible. Il faut notamment un accord avec les radicaux. Et pour ne pas faire peur aux radicaux, il faut plutôt un programme minimal, modéré, donc pas de nationalisation. Mais donc, il faut quand même se rappeler que dans le programme du Front populaire, il n'y a ni les 40 heures, ni les congés payés, ni les conventions collectives. Donc, les socialistes, Blum et les socialistes ne sont pas les seuls responsables. Au contraire, les socialistes ont plutôt insisté pour qu'il y ait des nationalisations. Ce qu'ils se disaient, s'il y a des nationalisations, il va y avoir des profits engrangés par ces industries nationalisées pour l'État qui va pouvoir redistribuer cet argent, notamment pour faire un fonds national de chômage. Ça, ce sont des mesures qui sont au programme et qui vont pas être réalisées. Un fonds national d'indemnité de chômage, une politique de grands travaux, un système de retraite, comme on le dit à l'époque, pour les vieux travailleurs.
Mais on verra ce qui va en advenir, d'ailleurs, de tout cela, un peu plus tard. Mais il est tout à fait intéressant de noter, effectivement, que du côté de la SFIO, bon, ils ont noté très clairement qu'ils ne voulaient pas conquérir, comme ils disent, le pouvoir, mais simplement l'exercer avec dans un programme qu'ils ont négocié. Mais on peut noter aussi quand même que le parti, la section française de l'International communiste, hein, comme vous l'avez rappelé, précisément, lui, soi-disant, parce que ce serait quelque chose qui serait, je dirais, pour faire barrage aux fascistes, eh bien, reste dans un schéma, on ne peut plus traditionnel, on ne peut plus réformiste. Est-ce que c'est bien?
Oui, mais d'ailleurs, il y a réforme et réforme, hein, comme je vous le disais. Là, l'enjeu n'est même pas réforme ou révolution. Hein. Et même quand on se rappelle en général ce fameux texte de Marceau Pivert dans le journal de la SFIO, Le Populaire, hein, c'est tout est possible. Mais Marceau Pivert, donc ça, c'est au printemps 1936, quand les grèves ont déjà commencé, hein, le gouvernement de Léon Blum n'est pas encore mise en place, il dit tout est possible. Mais c'est pas la révolution tout de suite et maintenant, ce sont des réformes radicales avec un bras de fer entre les puissances de l'argent, les puissances industrielles d'une part et d'autre part le peuple de gauche et le mouvement ouvrier pour aller le plus loin possible dans les réformes. Ce qui se passe, c'est que en effet, les communistes, comme d'ailleurs la CGT qui a été réunifiée au début de l'année 1936, estime très rapidement que la grève va gêner le gouvernement. Alors c'est ça qu'il faut avoir à l'esprit et qui est difficile à entendre peut-être avec le recul, parce que c'est pas du tout comme ça qu'on voit les choses quand on s'est pas penché de près sur cette histoire, mais en fait, On retient souvent la formule de Léon Blum qu'il a prononcée le 11 juin 1936. Il faut savoir terminer Il faut savoir terminer une grève dès que satisfaction a été obtenue. Mais justement, mon lapsus est lié au fait que ça, c'est une phrase en effet de Maurice Thorez. Mais en réalité, Léon Blum dit la même chose. Il le dit très très tôt lorsqu'il arrive au gouvernement les 5 et 6 juin 1936. Il dit qu'il représente la force tranquille. C'est une formule qu'en général, on croit attribuer à François Mitterrand, mais la force tranquille, c'est une formule de Léon Blum qu'il prononce dans un discours radiodiffusé du 6 juin 1936, donc juste au moment de former son gouvernement. Et il dit aussi qu'il va falloir revenir à l'ordre, l'ordre républicain, l'ordre dans la rue. Et dès lors, même le journal de la CGT, hein, Le Peuple, dit assez rapidement que voilà, il y a une victoire de la classe ouvrière, parce qu'il y a les accords Matignon. Donc, avec des mesures, notamment sur l'augmentation des salaires, sur les conventions collectives, sur le fait de ne pas sanctionner les grévistes. Donc, du coup, le journal Le Peuple, journal de la CGT, comme les communistes et comme les socialistes, en tout cas leur direction, disent « bon, bah, maintenant, voilà, les grèves doivent cesser ». Mais c'est parce qu'ils sont obsédés par cette idée que leur programme, c'est un programme de relance de l'économie par des moyens somme toute classiques qui sont proposés par exemple par Roosevelt aux États-Unis avec le New Deal, avec la nouvelle donne, le New Deal. C'est-à-dire on va relancer l'économie par l'augmentation des salaires, par une augmentation de la demande et on va dès lors relancer la production et voilà, faire en sorte que les richesses soient un peu mieux redistribuées avec un plus grand sens de la justice. Mais du coup, s'il faut relancer l'économie, il faut pas de grève. Parce que la grève générale avec 2 millions de grévistes, environ 10 000 entreprises qui sont occupées par leurs salariés, surtout les usines, mais aussi quelques grands magasins, ben ça permet pas de relancer l'économie. Donc très vite, le gouvernement de Léon Blum, au travers notamment de son ministre de l'Intérieur, hein, Roger Salengro, vont dire ben maintenant il faut cesser la grève. Et d'ailleurs, Roger Salengro va tenir un discours devant le Sénat, très inquiet devant ces grandes mobilisations, ces grandes grèves avec des occupations. Et Roger Salengro dit voilà, ben je vous promets que la grève va cesser. Et d'ailleurs, nous avons déjà procédé avec mes services à plusieurs milliers d'interpellations, des arrestations et même 1100 expulsions d'étrangers qui continuaient finalement le désordre avec les occupations. Et ça, c'est vrai que c'est pour ça que je parlais de lucidité. Hein, c'est un exercice de lucidité à avoir parce que cette gauche au pouvoir ne veut pas s'appuyer sur la grève dans son rapport de force avec les puissances de l'argent.
Exactement. Et avant de faire une petite pause musicale, on va souligner le point que vous venez d'indiquer très clairement, c'est que ce mouvement populaire qui est quand même énorme, hein, il y a plusieurs millions de personnes, je crois que vous me corrigerez. Hein,
mais 2 millions de grévistes.
2 millions de grévistes, un mouvement quand même complètement inédit. Eh bien, ce mouvement, cherche pas finalement, et ça nous étonne quand même beaucoup maintenant, à s'appuyer dessus pour aller plus loin qu'un accord, mais on va y revenir, qui justement est un petit peu en deçà de ce que ce mouvement veut obtenir, quelque part. Eh bien, on fait une petite pause de quelques secondes. Merci. Eh bien, nous sommes toujours sur Radio Cause Commune et toujours dans l'émission Onde de Choc. Et nous allons poursuivre avec Ludivine Bantigny cette discussion, cet échange autour de du Front Populaire en le comparant, enfin en réfléchissant à ce qui le différencie, mais le fait beaucoup ressembler à ce qui se passe aujourd'hui. Alors, nous avons vu qu'il y a un mouvement populaire immense et pouvez-vous nous indiquer, mais très vite, ce qui a été obtenu de ces négociations à Matignon, ce qui était prévu vraiment dans le programme négocié et en quoi, quel est l'écart entre les deux? Comment ça se passe exactement?
Oui, alors déjà, il faut se rappeler que ce mouvement de grève, il est vraiment exceptionnel pour l'époque et que le patronat s'est senti très, très déstabilisé par ces occupations d'usines qui sont à la fois très joyeuses, très heureuses. Il y a toutes les images qu'on en retient à juste titre d'une mobilisation heureuse et puis surtout l'impression de retrouver la dignité de sa vie, de son existence, de métamorphoser les lieux de travail où on travaille 48, 50 heures, parfois 60 heures par semaine. Et donc là, tout à coup, il y a ce suspens du temps avec la grève et puis on discute, on délibère, on prend des décisions. Il y a énormément de cahiers de revendications qui sont rédigés au sein de ces lieux de travail occupés par la grève. Et donc, dans ces cahiers de revendications, il y a des choses qui émerge d'abord la description des conditions quotidiennes de travail qui surprennent jusqu'aux dirigeants syndicaux. Hein. Léon Jouot dit, mais on ne se rendait pas compte à quel point c'était des salaires de misère et vraiment une exploitation éhontée. Et puis, il y a vraiment, voilà, on demande la dignité du travail, on demande les 40 heures, on demande des congés payés, etc., à certains endroits. Et donc, ce qui va être décidé et annoncé par Léon Blum, et c'est une surprise, le 6 juin, ce sont justement les 40 heures et les congés payés. Et je rappelle que ce n'était pas au programme. Donc c'est vraiment la grève qui a permis d'arracher ça. Et puis ça va devenir une loi qui est prise très très rapidement, hein, notamment sur les congés payés, très très rapidement, parce que, encore une fois, le patronat est prêt à céder beaucoup. Et puis il y a d'autre part les accords Matignon, hein, parce que les accords Matignon n'incluent ni les 40 heures ni les congés payés. C'est très important de l'avoir à l'esprit. Parce qu'une partie du patronat va dire « Ah ben non, mais nous, on n'a rien signé, les 40 heures, c'est pas nous qui l'avons décidé, etc. » Elle ne va pas s'y reconnaître. Et une partie du patronat va vraiment tenter de contourner, voire d'empêcher la mise en place des 40 heures.
Alors pourquoi ça n'a pas été introduit dans la négociation de Matignon?
Parce qu'en fait, Léon Blum voulait passer par la loi pour ces deux mesures, très rapidement. Et puis d'un autre côté, les accords Matignon, c'est essentiellement trois points. Des contrats collectifs. Donc, ce qu'on va appeler les conventions collectives. Donc, ça, c'est énorme aussi dans les rapports sociaux et dans les relations de travail, puisque, en fait, ça signifie qu'on n'est plus face tout seul, individuellement, face à son patron, face à son employeur, mais voilà, on est protégé par branche professionnelle. Donc, ça, c'est énorme. Ça veut dire que même, dans telle usine, dans telle entreprise, même si les accords sont pas signés, l'accord de branche vaut. Donc, là, les conventions collectives qui reconnaissent aussi des délégués d'entreprise, des délégués syndiqués d'entreprise, c'est énorme. Ensuite, le deuxième point, c'est les augmentations de salaire. Donc, en moyenne, de 7 à 15% d'augmentation de salaire. C'est beaucoup, mais malheureusement, ça va être très rapidement balayé par l'inflation qui va être considérable dans les semaines et les mois qui suivent. Et puis, le troisième point, c'est tout ce qui concerne la non-sanction pour fait de grève, le fait qu'il n'y aura pas de discrimination à l'embauche, il n'y aura pas non plus de licenciement pour les syndicalistes et pour des grévistes. Donc ça, ce sont les accords Matignon. Mais ensuite, il va y avoir beaucoup de
difficultés. Mais ça, c'est pas signé par le patronat ?
Si, accords Matignon, donc les trois mesures que je viens d'évoquer, augmentation des salaires, convention collective et non-sanction pour fait de grève, tout ça, c'est signé par les organisations patronales.
Mais pas les congés payés.
Non.
Pas
les congés payés
et
les 40 heures ne sont pas dans les accords Matignon.
Et pourquoi ils les ont pas, finalement, ils ne se sont pas appuyés sur ce mouvement populaire? Parce que le patronat pouvait pas céder là-dessus, il devait signer, non?
Encore une fois, l'idée, c'était de passer par la loi et pas par la signature d'accord tripartite entre l'État, le mouvement ouvrier avec ses syndicats et puis les syndicats patronaux, enfin, les organisations patronales. Donc, il y a d'un côté la loi et de l'autre côté les accords Matignon. Mais justement, peut-être que là, les dirigeants du Front Populaire estimaient que passer par la loi, par exemple, avec une loi sur les congés payés qui a été adoptée à l'unanimité absolue, plus précisément, oui, c'est ça, l'unanimité absolue, il y a eu zéro voix contre les congés payés à la Chambre des députés. Donc, on a presque 600 députés, il y a zéro député qui vote contre. Donc, c'est dire aussi que la droite a eu très peur et s'est ralliée aux congés payés. Mais ensuite, comme j'essaie de le montrer dans le livre, avec là encore le recours à beaucoup, beaucoup de sources très diverses, c'est ce qui rend la chose aussi passionnante, mais qui nous permet d'être... plus clairvoyants sur cette période, il y a beaucoup d'éléments, y compris qui étaient dans le programme, qui, quant à eux, n'ont pas été réalisés.
Alors moi, j'ai noté, parce que j'ai lu attentivement ce livre, qu'il était prévu la création d'un fonds de chômage. Vous me corrigerez hein, si j'ai pas, si j'ai exagéré ou si j'ai un petit peu déformé. Il était prévu une carte d'identité fiscale. Il n'y en a pas eu, je crois. Des fonds de retraite, je ne crois pas qu'il y en ait eu. Vous citez, hein, pas de politique de réel de grands travaux. Enfin, ça a été lancé, mais finalement, bon, les oppositions, ce n'est pas fait. Il y a un abandon de réformes en matière de droits politiques, de droits salariaux des femmes. Tout ça sont quand même des choses qui auraient que le mouvement portait, sur lequel ils auraient pu s'appuyer sur ce mouvement populaire, mais ce n'est pas fait.
Alors, donc il faut déjà se rappeler que, par exemple, dans le programme du Front Populaire, il n'est absolument pas question du droit de vote des femmes. Et là encore, ça s'explique par les tensions liées au Parti Radical. Le Parti Radical était vent debout contre le droit de vote des femmes. Et donc, il en était nullement question dans le programme. Et dès lors, même si le mouvement féministe était déjà très puissant, il y avait des dizaines de milliers de personnes dans les associations féministes. Et d'ailleurs, il y a eu une sous-secrétaire d'État, il y a eu trois sous-secrétaires d'État des femmes, dont Cécile Brunjvic, qui était elle-même la présidente de la principale organisation pour le suffrage des femmes. Elle n'a pas voulu chercher à arracher cette mesure pour ne pas déplaire au Parti Radical. Et Léon Blum lui-même a considéré que voilà, il fallait respecter le programme et cette mesure n'était pas dans le programme. C'est la même chose pour les colonies. Hein, je pense que ça sera éventuellement important d'en parler. Hein, il n'y a absolument aucune mesure émancipatrice, libératrice pour les colonies, mais rien du tout. Hein, rien ne figure dans le programme. Bon, alors ensuite, ce qu'il faut bien avoir aussi à l'esprit, c'est que très vite, le gouvernement de Front Populaire va être pris dans des affres tragiques, hein, on peut dire. D'abord parce que très rapidement, c'est la guerre d'Espagne, donc le refus d'intervenir en Espagne. Mais qui dit guerre d'Espagne dit aussi le danger d'une conflagration généralisée. Donc ça va être une obsession, c'est que la France risque d'entrer en guerre et que donc elle doit se réarmer. Donc la moitié du budget va être consacrée au réarmement. Donc c'est autant d'argent qui ne peut pas être consacré à des mesures sociales. Deuxièmement, il y a une
évasion. On se retrouve dans une situation un peu voisine.
Tout à fait. Alors, en effet, c'est pour ça que, en fait, mes lectrices et lecteurs, tous ceux qui m'écrivent en ayant lu le livre, se disent « mais c'est incroyable, à chaque page, on a l'impression d'entendre parler d'aujourd'hui ». Deuxièmement, il y a une très massive évasion des capitaux. Ce sont des milliards qui fuient la France, mais ça avait commencé avant le Front Populaire. Ça fait des années qu'il y a soit une thésaurisation des capitaux qui ne sont pas investis dans l'économie réelle, soit qui s'évadent. Et y compris, bon, j'ai retrouvé énormément de sources à ce sujet, même Pétain, Philippe Pétain, tout nationaliste qu'il soit, et on connaît le profil évidemment, il place son argent à l'étranger, en Suisse ou en Grande-Bretagne. Et donc on a des listes et des listes d'entreprises ou de milliardaires ou de millionnaires qui passent leur argent à l'étranger. Et donc Blum, avec son ministre des Finances Vincent Auriol, qui joue un rôle absolument majeur et dont j'ai retrouvé les papiers, la correspondance, les archives, etc. C'est édifiant, hein, vraiment. Ils se disent, en fait, on ne veut pas leur faire peur à ces porteurs de capitaux. En fait, en gros, aux capitalistes. On ne veut pas leur faire peur. On veut au contraire essayer de les convaincre qu'il faut ramener leurs capitaux en France. Et ils se disent, un peu naïvement d'ailleurs, ils se disent, mais au fond, bah, eux, ils sont de droite, voire d'extrême droite. Nous, on est de gauche, mais l'intérêt commun, c'est la France, c'est l'économie française, c'est le civisme, c'est le patriotisme, etc. Donc, ils croient vraiment qu'ils vont pouvoir amadouer ces porteurs de capitaux. Et du coup, ils assument de mener une politique économique libérale. Et le terme est prononcé dans leurs correspondances, dans tous leurs papiers, etc. Ils procèdent à une dévaluation en septembre 1936, un peu sous l'injonction d'ailleurs des États-Unis et de la Grande-Bretagne. Et là aussi, hein, j'ai retrouvé la correspondance entre Blum et Roosevelt, entre Blum et Morgenthau, donc le ministre des Finances aux États-Unis, entre Bloom et Chamberlain aussi en Grande-Bretagne. Donc en fait, ils se mettent d'accord sur une dévaluation, alors que Bloom était vent debout pendant des années contre la dévaluation, parce qu'ils estiment que là, et les communistes aussi, que la dévaluation est toujours antisociale.
Mais les États-Unis et la Grande-Bretagne avaient déjà procédé eux-mêmes à une
dévaluation. Oui, ça faisait des années que d'autres pays avaient dévalué, exactement. Donc en fait, Bloom et Auriol vont dire « Ah, mais c'est pas vraiment une dévaluation, c'est un alignement monétaire. » Mais bon, ça revient quand même très clairement à une dévaluation d'environ 20%. Donc c'est énorme, ça va être une grande perte de pouvoir d'achat. Donc contre ça, l'inflation, les capitaux qui continuent de fuir, en effet, il n'y a pas d'argent, plus le réarmement. Donc en fait, il n'y a pas d'argent pour mettre en place les mesures. Par exemple, Bloom avait une grande admiration, et Auriol aussi, pour Roosevelt, comme je le disais tout à l'heure. Il voulait, un peu comme Roosevelt, mener une politique de lutte contre le chômage avec des grands travaux, mais ils n'ont pas d'argent pour mener ces grands travaux. Ils ne mettent pas en place le fameux Fonds national du chômage, ce qui est très grave, parce que la situation des chômeurs et chômeuses est vraiment catastrophique. Et là aussi, dans les archives, j'ai retrouvé beaucoup de cahiers de doléances, de collectifs et comités locaux de chômeurs dans tout le pays. Et leur situation, finalement, presque, elle s'aggrave sous le Front populaire. Pourquoi ? Parce que pour les salariés, il y a une augmentation des salaires, comme on l'a vu avec les accords Matignon. Et ces salaires, cette augmentation de salaire, elle est quand même rognée par l'inflation. Mais pour les chômeurs, il n'y a rien. Et du coup, comme il y a de l'inflation et de l'autre côté, il n'y a pas d'indemnisation au niveau national, ce sont les municipalités qui portent le fardeau d'aider les chômeurs et chômeuses. Mais ça veut dire que pour les municipalités les plus populaires, les plus ouvrières, les plus pauvres, en fait, ben, y a aussi un appauvrissement, parce que ben, plus il y a de chômage, moins il y a de rentrée fiscale. Et donc, par exemple, en effet, cette carte d'identité fiscale qui était prévue depuis des années pour dire, en gros, il faut quand même lutter contre l'évasion fiscale, notamment. Il faut aussi une transparence des banques. Tout ça, par exemple, est soutenu par certains socialistes, dont, paradoxe suprême quasiment, le gouverneur de la Banque de France, qui s'appelle Émile Labeyrie et qui est un socialiste. Lui, il supplie Bloom et Auriol de mettre en place des mesures fermes pour empêcher l'évasion fiscale et l'évasion des capitaux. Contrôle des changes, monopole du commerce extérieur, carte d'identité fiscale, ce qu'il appelle lui-même un conseil de révision pour les banques, c'est-à-dire, bah voilà, comme les jeunes hommes qui doivent passer leur service militaire passent devant un conseil de révision, bah les banques doivent passer devant un conseil de révision et créer une sorte de transparence pour que l'État ait un droit de regard sur l'économie. Et Bloom et Auriol refusent en disant que ça passerait comme des mesures autoritaires et qu'eux, ils veulent rassurer. Et c'est ce qui va les perdre, en fait, et perdre le Fonds populaire.
Oui, c'est ça, puisque, en fait, poussé justement par ce besoin quand même de retenir la masse financière hein, qui s'évade, ils demandent quelque part des pouvoirs spéciaux, si j'ai bien lu votre ouvrage.
Oui, tout à fait. Alors,
pour justement bloquer, arriver à avoir les moyens de blocage de cette fuite. Et là-dessus, ils ne l'obtiennent pas parce que le Sénat refuse. Ils vont démissionner, si j'ai bien compris. Mais sur le plan de l'efficacité, si on regarde bien, cette reculade constante, cette peur, cet légalisme, finalement, ne résout pas le problème, parce que la guerre, on va la voir. La reprise... La reprise, elle existe aux États-Unis, alors que précisément, il y a une politique forte de grands travaux, c'est le New Deal, vous l'avez rappelé, des choses comme cela. Même Hitler, je dirais, sort de l'Allemagne, quelque part, d'une solution, enfin, d'une situation désastreuse avant, justement en mettant d'abord par des travaux importants, des grands travaux, mais au service de la guerre aussi, pour une bonne part. Bon, je ne dis pas que c'est une politique à faire, mais on voit bien que cette politique donne quand même des moyens aussi aux États de se défendre. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Oui, alors, nous, on sait, comme vous l'avez souligné, que oui, finalement, il y a eu la guerre. Mais il faut quand même se rappeler que, à l'époque, c'est pas fatal, ça n'a rien d'inéluctable. Et donc, ces gens, je considère qu'ils sont... je vais le dire tout net, hein, ils sont sincères mais naïfs. Et d'ailleurs, donc je parle de Bloom, je parle d'Auriol, je parle des ministres, notamment socialistes, hein, Charles Spinas, qui est le ministre de l'économie, par exemple. ils se disent « Oh là là, mais on est au pouvoir, il faut quand même savoir que Léon Blum ne s'attendait pas du tout à devenir président du Conseil. Mmh. » Parce qu'il avait fait ses calculs, et là on trouve ça dans ses archives, il a fait ses calculs, et il avait dit « Bon, bah, il pensait que ce seraient les radicaux qui arriveraient en tête, un peu comme depuis des années, en gros. » Donc il ne s'attendait pas à être à la tête du pouvoir. Donc c'est déjà une pression très très forte, et lui, il voit le pouvoir un peu comme un supplice, un sacrifice, une sorte de calice à boire. Bon, ceci pour sa personnalité. Et du coup, il se dit « Ah, mais en fait, cette responsabilité, elle est tellement lourde, elle est tellement terrible, il faut essayer de relancer l'économie. Mais c'est aussi une économie de guerre, hein, comme je le disais. Hein. Par exemple, comme vous le savez peut-être, Léon Blum va être traîné en justice pendant la guerre sous l'occupation par le régime de Vichy, hein, le fameux procès de Rion. Puisque Blum va être accusé d'avoir trahi la France, de l'avoir pas assez préparé à la guerre, ce qui est d'une fausseté absolue. Parce que Philippe Pétain, il avait été dans un gouvernement dans les années 34-35, c'était le gouvernement Doumergue, d'ailleurs avec des radicaux comme Édouard Herriot. Le gouvernement de Blum, il a beaucoup plus réarmé la France que le gouvernement Doumergue-Pétain. Donc, comme je le disais tout à l'heure, la moitié du budget de la France est consacrée au réarmement. Et très vite, d'ailleurs, des gens comme Daladier, donc le dirigeant du Parti radical, des gens comme Vincent Auriol, etc., vont dire aucune nouvelle mesure, aucune nouvelle réforme, aucune nouvelle dépense, sauf pour la guerre. Et d'ailleurs, la seule nationalisation qui va avoir lieu en 36-37, c'est sur certaines industries d'armement, parce que l'État veut pouvoir contrôler ces industries et les rendre aussi plus efficaces. Donc, on connaît en général la fameuse pause, la pause qui a été décrétée par Blum en février 1937 pour dire, bon bah, voilà, il faut que les réformes s'arrêtent. Mais en réalité, ça a commencé avant. Hein. Je décris une loi que je n'avais jamais rencontrée dans les livres d'histoire, et pourtant, elle est quand même très importante. C'est une loi de décembre 1936, qui est la loi dite sur l'arbitrage obligatoire. C'est-à-dire qu'on n'a plus le droit, d'après cette loi, de se lancer spontanément dans une grève. Pour faire grève, il faut avoir recours à un arbitre, et puis un second arbitre, s'il n'y a toujours pas d'accord, et puis un surarbitre, etc. Et pendant ce temps-là, on ne peut pas faire grève. Donc c'est une loi qui vise à limiter la grève. Et ça, c'est décembre 1936. Février 1937, Léon Blum annonce la pause en disant, ben là, on est dans une spirale inflationniste terrible, on n'arrive pas à résoudre ce problème de l'inflation. Et moi, je vois hein, dans les archives locales, des préfets, des sous-préfets, des renseignements généraux, vraiment, ils n'arrivent pas à juguler l'inflation. Ils n'ont pas les moyens, en fait, matériels et humains pour le faire. Donc, les commerçants s'en donnent à cœur joie, ils augmentent énormément leurs prix à tous les niveaux, et les entreprises aussi. Mais, et donc, en juin 1937, Léon Blum dit, ben, voilà, je demande les pouvoirs spéciaux. Alors, les pouvoirs spéciaux, c'est vraiment pas la dictature. Hein. C'est, voilà, pendant quelques semaines... sur un sujet très précis, pour essayer, justement, de mettre en œuvre une politique qui, vraiment, n'a même rien de réformiste, puisque, comme je vous l'ai dit, ils sont plutôt libéraux en matière économique. Mais en fait, il y a déjà le Sénat, et ça c'est un gros problème démocratique, parce que le Sénat n'est pas élu au suffrage universel direct. Depuis des décennies, d'ailleurs, la gauche...
Ça n'a pas changé.
Non, bien sûr que non. Et donc la gauche était parmi ces réformes institutionnelles, la gauche prônait la suppression du Sénat. Hein. Et Léon Blum le rappelait régulièrement, bah, le Sénat a beaucoup moins de légitimité démocratique que la Chambre des députés. Mais il n'empêche que le Sénat est vent debout contre toute cette politique et que parmi ces sénateurs, il y a aussi beaucoup de radicaux. Mais ce sont des radicaux qui forment plutôt une aile droite du Parti radical et qui ne veulent plus du tout entendre parler. Enfin, pour eux, déjà, la grève avec occupation, c'était une catastrophe, c'était une mise en cause de l'ordre propriétaire, de l'ordre social. Et donc, y compris les radicaux vont voter contre les pouvoirs demandés par Blum. Et ils n'étaient pas obligés de démissionner hein, en juin 1937, mais ils démissionnent. Après, il va très vite rejoindre le gouvernement suivant.
C'est cela, il reprend quand même, il rentre dans le gouvernement.
Oui, le gouvernement suivant est cette fois plus classiquement dirigé par un radical. Donc c'est alors que ce n'est pas légitime, hein, le Parti radical avait eu de moins bons résultats que les socialistes. Mais donc à partir de juin 1937, il y a un gouvernement dirigé par un radical qui s'appelle Camille Chautan. Donc il va déplacer encore plus vers la droite la politique de ce deuxième gouvernement de Front Populaire. Mais Léon Blum est quand même vice-président du Conseil. Donc voilà, il y a beaucoup de ministres socialistes qui restent à leur poste. Et donc ce gouvernement va continuer un peu cette politique assez libérale sur le plan économique. La seule mesure qu'on peut, de gauche, on va dire, qu'on peut retenir de l'année 1937, c'est la création de la SNCF, donc la Société Nationale des Chemins de Fer. Mais en réalité, c'est pas une nationalisation, hein, c'est plutôt une entreprise d'économie mixte. Et c'est surtout parce que les entreprises privées des chemins de fer étaient assez peu efficaces. Alors, les propriétaires et les actionnaires de ces entreprises ont été très largement indemnisés. Et d'ailleurs, il reste actionnaire de cette entreprise d'économie mixte. Donc ça, c'est la SNCF en 1937. Et puis, en réalité, le Front populaire lui-même, il va se terminer en mars 1938. Parce que Léon Blum va tenter à plusieurs reprises de revenir au pouvoir, mais plus du tout sur les mêmes bases. En janvier 1938, il essaie de former un deuxième gouvernement Blum. Ça va échouer, mais lui, ce qu'il dit maintenant, c'est qu'il faut un gouvernement d'union sacrée. Hein, c'est ce qu'il dit très clairement, d'union sacrée, qui irait des communistes à la droite. Pourquoi ? Parce que voilà, maintenant, le risque de guerre 38, devient énorme. On est donc en janvier 1938. Finalement, donc il n'est pas investi, et il y a un deuxième gouvernement Blum en mars et avril 1938, donc très éphémère. Et là, bah, il va être aussi très, très rapidement renversé, mais Blum essaye à nouveau de convaincre la droite de participer à ce gouvernement. Mais évidemment, la droite, elle lui envoie une fin de non-recevoir. Il est très déçu, Blum, parce qu'il ne comprend pas. En fait, il dit maintenant, le danger pour la France est très grand. Lui, Blum, il a participé au gouvernement d'Union sacrée pendant la Première Guerre mondiale, puisqu'il était chef de cabinet d'un ministre socialiste de l'Union sacrée, Marcel Samba. Donc, il estime qu'il est possible de refaire cette Union sacrée. Voilà, donc une union extrêmement large, et finalement, ça lui est refusé. Et donc, c'est le gouvernement Daladier qui va lui succéder. Alors là, le gouvernement Daladier, même si Édouard Daladier est le président du Parti radical, mais cette fois, il n'y a plus de socialistes dedans. C'est pour ça qu'on peut considérer qu'à partir de avril 1938, le Front populaire est terminé, puisque c'est plus un gouvernement socialiste, c'est un gouvernement à majorité radicale qui penche très clairement vers la droite et qui va saboter, y compris les 40 heures par exemple, hein. Les 40 heures sont remises en cause, et puis c'est vraiment la marche à la guerre.
Voilà. Alors, on va peut-être aborder plus précisément les aspects internationaux, si vous voulez, maintenant, mais que vous avez déjà bien traité. Mais je voulais juste avant vous poser une question sur la façon dont vous comprenez la politique du Parti communiste à l'époque. Parce que même si on admet que, même si on reconnaît qu'il y a une guerre, enfin je veux dire, il y a un risque de guerre qui apparaît de plus en plus, hein, c'est évident, néanmoins, leur politique reste quand même tout à fait étonnante. Pourquoi ne pensent-ils, comment peuvent-ils croire qu'on va arrêter précisément la guerre en reculant? C'est ça qui est étonnant. Et alors, on pourra l'illustrer peut-être un peu après, si vous voulez, par la problématique de la guerre d'Espagne aussi. Voilà.
Oui, alors donc, les dirigeants communistes ont des désaccords avec certains aspects de la politique menée par le gouvernement Blum. Hein, par exemple, sur la dévaluation, ils y étaient opposés, pour les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure. Mais finalement, ils disent, bon, bah, tant pis, hein, s'il faut une dévaluation, bah, qu'à cela ne tienne, il y aura une dévaluation. Autre exemple, les dirigeants communistes voudraient un impôt sur le capital. ils disent, enfin, un de leurs mots d'ordre à l'époque, c'est faire payer les riches. Mais cet impôt n'est pas mis en place. Comme on l'a dit tout à l'heure, il n'y a même pas la carte d'identité fiscale. Hein. Et donc, les communistes cèdent un peu sur ce point. Donc, pour le comprendre, il faut revenir à ce qu'on se disait tout à l'heure et y insister. C'est-à-dire que depuis 1935, la ligne stratégique, c'est maintenir l'unité à tout prix. Donc maintenir l'unité, notamment avec le Parti radical, y compris dans son versant qui penche très clairement vers la droite, puisque c'est l'Union soviétique qui s'estime menacée dans son existence même s'il y a une extension du fascisme. Et donc en fait, l'Union soviétique, la Troisième Internationale, et dès lors le Parti communiste français, puisque désormais il s'appelle Parti communiste français, c'est intéressant, hein, à partir de 1935, il s'est rallié à la Marseillaise, au drapeau tricolore, alors qu'il en était hors, c'était hors de question dans les années précédentes. Je vous rappelle que, par exemple, quelqu'un comme Louis Aragon, poète au sein même du Parti communiste, hein, long compagnon de route du Parti communiste, disait les trois couleurs à la voirie. C'est-à-dire, c'est vraiment un chiffon qu'il faut jeter dans la benne à ordures, le drapeau tricolore, parce que c'était le patriotisme, le nationalisme, et eux, ils étaient fondamentalement internationalistes. Le PC va changer radicalement de ligne donc à partir de 1935. Donc l'idée, c'est qu'il faut préserver cette alliance. Donc il faut avaler des couleuvres. Et certains vont même dire avaler des vipères, hein, parce qu'il faut accepter de reculer. Alors, il y a des aspects quand même, un aspect fondamental sur lequel le Parti communiste est en désaccord total avec le gouvernement Blum, et pour le coup, il va le manifester, c'est sur la guerre d'Espagne. Et c'est la seule fois où les députés du PC vont voter contre, en tout cas vont s'abstenir, c'est sur la politique étrangère du gouvernement, et singulièrement sur la guerre d'Espagne, puisqu'on le sait, eux sont pour une intervention en Espagne, en tout cas au minimum, sinon une intervention militaire, du moins l'envoi de ravitaillement, l'envoi d'armes, hein, on se souvient des mots d'ordre, des canons, des avions pour l'Espagne. Et là, on le sait pas assez, mais la non-intervention décidée par Blum, non sans beaucoup de tourments, hein, faut pas s'imaginer que ce soit une décision prise à la légère, hein. Blum est extrêmement tourmenté, c'est un cauchemar pour lui, hein, cette guerre d'Espagne. Mais la non-intervention, ça signifie concrètement un embargo sur l'Espagne républicaine. Ça veut dire que la France, il y a interdiction d'envoyer quoi que ce soit en Espagne. Il y a quelques avions, parce que c'était un contrat qui était passé de longue date entre la France et l'Espagne, quelques avions qui sont envoyés au début, grâce à Pierre Cotte, le ministre de l'Air, grâce aussi à André Malraux d'ailleurs, mais très rapidement, c'est terminé.
Ouais. Légalisme, en fait.
Au nom du légalisme, alors, il y a trois raisons principales, je vais dire. Hein. Première raison, c'est la peur de la guerre. La peur que si on entre dans ce conflit, eh bien, il y a une extension généralisée de cette conflagration, que ça devienne mondial. Deuxièmement, il faut satisfaire les intérêts de la Grande-Bretagne. Hein, je l'ai rappelé tout à l'heure, il y a eu cette alliance entre la Grande-Bretagne, les États-Unis et la France sur le plan monétaire. Et donc, la Grande-Bretagne fait pression sur la France pour qu'il n'y ait pas d'intervention. Et le gouvernement britannique de l'époque, il ne voit pas d'un mauvais œil l'arrivée potentielle de Franco. Ça leur va parce que le Front populaire espagnol, le Frente Popular, avec la dimension guerre civile et dimension révolutionnaire aussi. Il faut quand même se rappeler qu'il y a des pans entiers de socialisation des industries, des appropriations collectives des terres dans certaines régions comme la Catalogne. Et ça, c'est le troisième aspect. C'est-à-dire que clairement, il y a aussi une peur de la contagion révolutionnaire de la part d'un gouvernement très légaliste comme Blum. Et ça, je l'ai trouvé vraiment dans les archives du ministère de l'Intérieur, des préfets.
Donc, c'est quand même il y a une dimension de, je vais dire peut-être trop fort, un mot trop fort, mais il y a quand même une dimension un peu de classe quelque part. Parce que la peur du Frente Popular, c'est quand même une réaction de classe.
Ben, disons qu'il y a en effet, par exemple, ce qu'on trouve dans les archives, c'est que des journaux républicains espagnols, notamment anarchistes, mais pas seulement, sont interdits, sont censurés en France par le gouvernement Blum, Salengro, puis Blum, Marx Dormoy, qui succède à Roger Salengro après son suicide tragique le 17 novembre 1936 et devient donc ministre de l'Intérieur. Et donc, en fait, ça signifie, hein, pour revenir à ce que signifie la non-intervention, c'est l'embargo total, d'une part. Et d'autre part, là aussi, on le voit dans les archives de ministère de l'Intérieur et des préfets, le volontariat international est interdit. Donc, on sait qu'il y a les brigades internationales. Alors là, c'est le grand, grand désaccord et que le PC organise ces brigades internationales avec notamment celui qui les dirige, André Marty, qui est lui-même un dirigeant communiste.
Qui va se faire exclure après, d'ailleurs.
Oui, mais alors pour
bien plus tard.
Bien plus tard et pour toute autre raison. Mais il y a aussi, d'ailleurs, des anarchistes, des libertaires, des trotskistes qui partent en Espagne. Simone Veil, la philosophe Simone Veil, elle part en Espagne. Mais ça, normalement, c'est interdit. Parce qu'il y a eu un accord passé entre différents pays, dont la Grande-Bretagne, la France, mais aussi l'Allemagne et l'Italie, sur la non-intervention. Sauf que l'Allemagne et l'Italie vont très vite piétiner cet accord international et on le sait, hein, vont non seulement envoyer des armes aux troupes franquistes, mais aussi participer directement à la guerre. Et Guernica n'en est qu'un exemple tragique avec un bombardement par des aviations italiennes fascistes et allemandes nazies. Mais du coup, en fait, c'est pour ça que l'URSS dit, bah, de toute façon, l'Allemagne et l'Italie ne respectent pas l'accord, donc nous aussi, on envoie des canons et on envoie des avions et on envoie les brigades internationales qui sont coordonnées essentiellement par les partis communistes.
Tout à fait. Mais écoutez, la politique coloniale que vous avez évoquée tout à l'heure me paraît quand même aussi importante à évoquer rapidement. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Vous l'avez dit d'ailleurs en disant, enfin, il y a pratiquement rien eu. Hein. Est-ce qu'il y avait d'ailleurs quelque chose dans les accords entre la SFIO et le PC?
Non, absolument rien. Dans le programme du Front Populaire, la seule ligne qui concernait les colonies, c'était on va mener une enquête sur l'état des colonies. C'est tout. Donc, on va diligenter une sorte de commission d'enquête, alors qu'en fait, on connaissait déjà assez bien la situation en colonie. Hein. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que, enfin, il y a plusieurs raisons qui éclairent le fait qu'il y a eu non seulement aucune avancée sociale dans l'empire colonial, hein, 50 millions d'habitants, mais même des répressions, des grèves qui ont été réprimées, parfois même dans le sang, des prisonniers politiques, parmi lesquels des Algériens, des Malgaches, des Vietnamiens, et notamment parmi les Algériens, les dirigeants de l'étoile nord-africaine, hein, notamment, et puis des dirigeants vietnamiens comme Tatuto, par exemple, qui vont se retrouver en prison, qui vont faire une grève de la faim. Alors, il y a plusieurs raisons. C'est que, d'une part, toujours la même chose, c'est-à-dire que s'il faut réarmer la France, s'il faut se préparer à une guerre, on a besoin des colonies, on a besoin des ressources, on a besoin des matières premières, on a besoin de la main-d'œuvre. Et ça, le PC est sur cette ligne. Alors, les communistes localement, communistes vietnamiens, communistes malgaches, ils vont rester sur une ligne anticolonialiste qui prévaut depuis des années. Hein. Parce que je rappelle qu'il y a des communistes qui avaient fait de la prison dans les années 20 pour leur anticolonialisme. La direction du PC dit non, c'est plus ça la ligne, il faut surtout défendre des réformes sociales, etc. Ça, c'est la première raison. Deuxième raison, en fait, il y a un ministre des colonies qui s'appelle Marius Moutet, hein, il est socialiste, il était membre de la Ligue des droits de l'homme, mais il se sent complètement impuissant par rapport au pouvoir colonial sur place, par rapport aux gouverneurs coloniaux, par rapport au patronat colonial. Et souvent, il va complètement entériner les situations. Par exemple, il y a une grande mobilisation au Vietnam, hein, surtout dans le Tonkin et dans l'Annam. Grande mobilisation, l'idée c'est de faire un congrès sur la base de délégués mandatés avec des cahiers de revendications pour qu'au minimum s'applique la législation sociale, les 40 heures, les congés payés. Bon, on en est très très loin et ce congrès va être interdit sous l'autorité de Marius Moutet. Il y a un autre exemple qu'on peut citer, c'est celui du projet Bloom Violette. Alors le projet Bloom Violette, c'était quoi? C'était pour l'Algérie. C'était, on mène une politique assimilationniste, c'est-à-dire on va donner la citoyenneté française à 20 000, 22 000 Algériens triés sur le volet.
De l'ordre de 10% à peine de la population, dites-vous, je crois.
C'est même moins de 10%, puisque en gros, la population algérienne à l'époque, c'est environ presque 8 millions d'habitants. Donc 22 000, c'est vraiment très, très négligeable. Et ce sont des supposés, alors des hommes, hein, bien sûr, puisque hors de question de donner le droit de vote aux femmes, mais de supposés élites indigènes. Donc on va trier cette population sur le volet et puis on va octroyer cette citoyenneté française. Alors, mais ce projet, de toute façon, il va même pas être examiné en réalité, parce que le pouvoir colonial est absolument vent debout contre ce projet. Donc la seule mesure qui est mise en place, mais pas toujours pour des raisons émancipatrices et humanistes, c'est la suppression du bagne. Alors elle va être extrêmement progressive. Et puis Marius Moutet nous dit dans ses archives, enfin c'est ce qu'on retrouve, de toute façon les bagnards là, ils sont très inefficaces, on leur fait faire justement des travaux d'intérêt public, hein. Par exemple on leur fait construire des chemins de fer là en Guyane, Et Marius Moutet dit, bon, de toute façon, en 40 ans, ils ont été capables de construire seulement quelques dizaines de kilomètres de voies ferrées. Donc, il vaudrait mieux les enfermer, ces gens-là, dans des cellules de 3 mètres sur 2, plutôt qu'au bagne, au grand air, en fait. Donc, le bagne va être supprimé progressivement, mais sinon, il n'y a vraiment pas de mesure. Et même, par exemple, le jour de repos hebdomadaire, le dimanche, par exemple, n'est même pas octroyé. Enfin, parce que c'est incroyable, le patronat colonial, à certains moments, dit « Ah mais oui, mais le samedi ou le dimanche férié, ça c'est bon pour la métropole, mais c'est judéo-chrétien, quoi, et donc au Vietnam, ça n'a pas lieu d'être. » C'est un grand cynisme.
Exactement. Eh bien, écoutez, peut-être les auditeurs auront-ils renoté indirectement le lien qu'il peut y avoir entre cette situation, les liens qu'il y a entre 36, le Front populaire, sa situation internationale, et puis nos événements actuels avec l'extrême droite et la situation internationale. Je voudrais juste vous poser une dernière question. Dans l'histoire, après cette réflexion menée dans ce contexte actuel, comment peut-on juger, ou pouvez-vous juger précisément, ou apporter un espèce de jugement sur le Front populaire sur,
Oh, moi, je ne veux pas spécialement porter de jugement, mais disons que je pense qu'on peut en tirer des hypothèses stratégiques pour aujourd'hui. La première hypothèse, c'est celle de l'unité des gauches. Le Front populaire, évidemment, c'est une unité des gauches, et c'est un front antifasciste, et ça a été fondamental, et ça a été, comme je le disais tout à l'heure, vraiment permis par la force des mobilisations locales, des forces de mobilisation à la base. Il faut quand même se rappeler, comme je l'ai dit tout à l'heure également, que l'hostilité au sein des gauches, elle était finalement bien plus grande qu'aujourd'hui. Même si on se dit parfois aujourd'hui, c'est désespérant, les gauches sont tellement divisées, clivées, etc. Ça, c'est la première chose, c'est la nécessité de l'unité. Deuxième chose, c'est l'importance de cette auto-organisation à la base et la confiance qu'on peut avoir aussi dans le mouvement social. Parce que le Front populaire, comme je l'ai expliqué, le gouvernement de Front populaire n'a pas voulu s'appuyer sur le mouvement social, n'a pas voulu s'appuyer sur les grèves, contrairement à ce que disaient des dissidents du Parti communiste, contrairement à ce que disaient aussi des anarchistes, des trotskistes, ce que disaient Marceau Pivert, la gauche révolutionnaire, Daniel Guérin, etc., Simone Veil, André Violi, André Heu, donc des femmes aussi. Et donc, c'est le deuxième aspect, je pense, c'est la question de, dans un rapport de force face aux puissances de l'argent, du capital, c'est la question de l'importance du mouvement social et de ne pas s'en remettre uniquement à des dirigeants. Et le troisième aspect...
Et peut-être uniquement une union qui n'est peut-être pas aussi... pour lequel il ne faut peut-être pas se faire trop d'illusions.
Alors justement, c'est le troisième aspect, c'est-à-dire que, en fait, unité de la gauche et des gauches, oui, et d'ailleurs, c'est des partis, des syndicats, des collectifs, des associations, des organisations de toutes sortes, mais de la vraie gauche. Parce que le problème, c'est qu'une partie de cette organisation qu'on a beaucoup mentionnée, c'est-à-dire le Parti radical, oscille en permanence entre la gauche et la droite, par opportunisme, mais aussi par conservatisme social. Et donc, dès que ça lui a été possible, ça a été un coup de poignard dans le dos de cette aile droite du Parti radical contre le Front populaire. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense que la leçon à retenir, c'est l'unité, oui, mais sur un périmètre précis, sur un périmètre cohérent, conséquent, qui soit celui de la vraie gauche et pas d'une droite complexée qui continue de se dire de gauche tout en menant des politiques de droite.
Eh bien, écoutez, on va conclure par cette très belle petite conclusion de votre part, Ludivine Bantigny. On vous remercie vraiment beaucoup de cet échange. Je rappelle le titre de votre livre, « La bourse ou la vie, le Front populaire, une histoire pour aujourd'hui ». Et c'était bien pour aujourd'hui qu'il valait le coup de vous interroger.
Merci beaucoup.
Au revoir.